Dans cette deuxième partie, on va davantage parler du milieu de la recherche en ce moment, et notamment via votre expérience à l'Université de Dijon. Le milieu de la recherche a subi pas mal de changements, on va dire, ces 20 dernières années. Pour citer les plus grosses réformes, il y a eu la loi LRU en 2007, qui, en gros, a rendu les universités autonomes en matière de budget et de gestion des ressources humaines. En 2018, c'était la loi OR, qui a mis en place la sélection à l'université et le nouveau logiciel Parcoursup. Il y a d'ailleurs eu des mobilisations à Dijon pour s'opposer à cette loi. Et enfin, dernière grosse mobilisation, c'était contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche l'année dernière. Cette loi a été adoptée le 20 novembre dernier. Donc, je ne vais pas m'étendre vraiment sur le fond de cette loi de programmation, mais en gros, ce qui est critiqué, c'est que la part d'argent donnée de façon régulière par l'État au milieu de la recherche diminue au profit d'un financement par projet, qu'il y a une amplification des contrats précaires tels que les vôtres. Et je vais finir là-dessus, même si donc il y a plein d'autres éléments qui posent problème dans cette LPPR. Je vais finir par le fait que cette loi de programmation systématise la concurrence des universités entre elles, mais aussi des labos entre eux et des enseignants-chercheurs aussi. À Dijon, contre la LPPR, il y a eu une nuit de l'enseignement organisée en février dernier, donc en février 2020, ainsi qu'une journée le 5 mars d'arrêt de travail pour toutes les travailleurs et travailleuses de l'enseignement supérieur. Est-ce que déjà vous pouvez revenir un peu sur cette mobilisation de l'année dernière? Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé?
La mobilisation, elle a dû commencer en janvier, je crois, ou peut-être même un peu avant, je ne sais plus. À une époque, il y avait déjà beaucoup de mobilisation, notamment contre la réforme des retraites. Donc, souvent dans la même semaine, on faisait des AG contre la LPPR et puis on allait manifester contre la réforme des retraites. Bref, vous voyez, c'était quand même un hiver assez, entre guillemets, social. Le département de sociologie s'est plutôt engagé, enfin même était complètement engagé. On a fait des réunions avec les étudiants pour expliquer un peu la loi, pour également montrer ce qu'elle allait entraîner dans notre département à nous. Et ensuite, concrètement, nous, on s'est mobilisés dans les différentes AG. On a eu d'autres idées également qui n'ont pas pu germer à cause du confinement qui s'en est suivi. On a également occupé la grande salle de la maison d'université. Et finalement, on a été coupé dans notre élan par la situation sanitaire. Et je crois que la mobilisation, elle s'en est jamais vraiment remise. Si vous voulez, il n'y a pas eu de remobilisation à partir de septembre à la fac, d'autant plus que le mode de gouvernance du gouvernement Macron, pour faire une jolie répétition, n'a pas vraiment laissé la possibilité d'une grande mobilisation, puisque ça s'est fait cet été, grosso modo. Ouais.
Et du coup, selon vous, c'est quoi qu'elle va changer concrètement, on va dire, dans le quotidien de l'université de Dijon, cette LPPR ?
Il y a la question du financement de la recherche, déjà, qui va poser problème. Qui pose déjà problème. C'est-à-dire que financer la recherche et l'enseignement, actuellement, on le voit par exemple sur la situation du département et la grève qui s'en est suivie. Il y a déjà des problèmes de financement. On manque déjà d'argent, on manque déjà de moyens humains. Ça risque de continuer, surtout ça risque de précariser davantage les intervenants à l'université, notamment avec tous ces nouveaux contrats de vacataires, des contrats courts, etc. La concurrence aussi que ça risque d'entraîner entre les universités, même au sein des universités, entre les départements, les UFR, les laboratoires, etc. Enfin, ça va pas du tout dans le bon sens.
Donc, il y a beaucoup cette histoire de concurrence, mais comment cette concurrence, elle se vit au quotidien? Enfin, quelle forme elle prend, en fait?
C'est difficile, à l'heure actuelle, de cibler ça, mais on la voit déjà, la concurrence, notamment quand il y a l'ouverture de financement pour des projets de recherche. Alors j'ai plus tous les noms en tête, c'est des acronymes, il y a un truc qui s'appelle ISIT. C'est déjà des formes de financement, donc il faut monter des dossiers. Il faut argumenter de sa compétitivité et de l'intérêt de sa recherche. Du coup, ça va aller dans le sens non plus de l'avancée des travaux scientifiques, mais simplement dans le sens de la rentabilité des travaux scientifiques. Et la rentabilité, c'est pas forcément garant de qualité, et c'est même pas forcément garant d'avancée. Qu'est-ce qui va se passer pour les universités, les départements, les laboratoires qui seront considérés comme peu rentables ou pas assez? En gros, ça va encore aller renforcer les principales universités, celles qui sont déjà les plus puissantes dans les principales villes de France et surtout les universités parisiennes. C'est-à-dire, c'est déjà elles qui tiennent la recherche française, c'est déjà elles qui ont plus de postes et qui ont plus, par exemple pour prendre les doctorants, de doctorants qui s'insèrent facilement ensuite sur le marché du travail, notamment universitaire. Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces petites universités de province? Ça peut être le cas de l'université de Bourgogne ou même de l'université de Franche-Comté. Est-ce qu'il y a des départements qui vont disparaître? Quelles répercussions ça va avoir aussi sur les étudiants et sur le milieu de la recherche?
Ça pose aussi la question des financeurs, c'est-à-dire qui finance tout simplement. Voilà, je veux pas paraître entre guillemets complotiste ou quoi, mais on sait très bien qu'une recherche un peu financée par des financeurs capitalistes ou privés ou je ne sais quoi va forcément avoir ses intérêts. Et c'est un peu la liberté académique aussi qui risque de disparaître. Voilà, peut-être que demain, des recherches... elles ont été attaquées il n'y a pas longtemps, mais les recherches décoloniales ou les recherches féministes, qui va les financer? Est-ce qu'elles vont pouvoir toujours se faire? Est-ce que, voilà, on doit être libre de travailler sur ce qu'on veut à partir de fonds publics, de fonds qui regardent toute la recherche, quoi? Et j'ai pas envie de dépendre d'un financeur qui doit me dire quoi chercher, comment chercher et à quel objectif arriver.
Pour s'écarter un peu de la LPPR, est-ce que vous avez eu l'occasion à l'Université de Dijon de vous mobiliser contre d'autres lois ou d'autres réformes?
Pour ce qui est de la sélection à l'université, moi j'avais participé à quelques mobilisations, mais alors je sais pas pourquoi elles avaient finalement assez peu pris à Dijon. Je crois aussi que c'était une réforme un peu sous-évaluée, sous-médiatisée et du coup qui n'a pas eu la contestation qu'elle aurait dû avoir. Parce que là aussi on va à l'encontre de la démocratisation de l'enseignement supérieur et puis on refuse leur chance à tout un tas de jeunes lycéens et étudiants parce qu'on n'aurait pas des résultats suffisants au lycée qu'on ne peut pas être ensuite un bon étudiant ou une bonne étudiante. Au contraire, à titre personnel, je pense même être l'exemple l'exemple de ça.
Et est-ce que vous sauriez dire un peu les changements que ça a provoqué, ces deux grosses lois, donc LRU et OR, à l'université ou pas? Est-ce que vous ressenti des changements concrets?
Je ne sais pas je sais pas quels changements sont liés à quelle réforme. Moi, les changements que j'ai perçus entre septembre 2010, quand je suis arrivé à l'université, et aujourd'hui, ils sont de plusieurs ordres. Le premier étant qu'il y a moins d'enseignants, il y a moins d'heures de cours aussi entre quand j'étais étudiant et aujourd'hui. Et puis ensuite sur la sélection à l'université, j'ai l'impression que il y a des profils moins variés. Et puis voilà, c'est donc moins de démocratisation aussi.
Vous vous êtes mobilisé, donc vous l'avez dit, contre la LPPR l'année dernière et au début de cette année un peu. Et là vous avez fait, je sais pas, 2 mois et quelques de grève. Un peu plus de 2 mois de grève. Pourquoi pour vous c'est important de vous mobiliser au sein de l'université? Enfin, qu'est-ce que vous voyez au-delà de tout ça?
Moi, je suis en fin de doctorat, donc j'arrive aussi à la fin de, je pense, de ma carrière de vacataire, on va dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas conscient de ce qui va se passer derrière et du fait que ce que moi j'ai vécu, il y en a d'autres qui vont le vivre, et là il en va du fonctionnement même de l'université, quoi.
Bah déjà, on ne sait pas concrètement pour améliorer nos conditions de vie à nous, qui sont toujours plus précaires. Mais ça fait partie aussi d'un combat politique général. Voilà, on va se mobiliser contre la réforme des retraites, on va se mobiliser contre la loi de sécurité globale, on va se mobiliser pour le droit des réfugiés, pour le droit à ci, pour le droit à ça. Voilà, ça fait partie de nos vies, c'est contre un modèle de société qu'on se bat, une société néolibérale, enfin toujours plus néolibéralisée, quoi. Et on parle aussi souvent de générations futures en écologie, en disant qu'il faut prendre soin de la planète pour les générations futures. Mais je crois qu'il faut aussi sanctuariser la recherche et prendre soin de la recherche pour les générations futures. J'ai pas envie que mes enfants ou mes neveux et nièces ou je ne sais qui arrive dans une université où elle va devoir s'endetter sur 25 ans, comme par exemple Barack Obama aux États-Unis, qui a fini de rembourser son prêt quand il était président, quoi. Et qui va avoir des cours par des manager pas vraiment formé et avoir d'autres cours avec des chercheurs qui vont malheureusement pas pouvoir être libres de dire ce qu'ils veulent. Voilà, je pense souvent aux postes décoloniales qui ont été pas mal critiqués ces derniers temps, et voilà, c'est des choses intéressantes dont il faudrait un peu plus parler, et c'est ça qui me fait peur.
Et je demande aussi ça parce que j'ai l'impression que les lois ou quoi qui touchent le milieu de la recherche, elles mobilisent moins dans la population que d'autres lois qui vont toucher d'autres milieux. Par exemple, je pense au soutien qu'il y a eu pour le milieu hospitalier qui a fait un rassemblement à Dijon après le premier confinement. Il y a quand même pas mal de gens, je pense, qui n'étaient pas de ce milieu-là. Pour le milieu des profs, collèges, lycées, il y a aussi un peu plus de soutien. Et pour l'université, j'ai l'impression qu'il y en a assez peu. Du coup, c'est un peu le sens de ma question aussi, quoi.
Je pense que ça touche une chose qui est le fonctionnement même de la recherche et à qui s'adresse la recherche. C'est, je pense, un problème structurel aussi là-dessus. La recherche, elle s'adresse malheureusement avant tout aux chercheurs. Il y a une espèce de cloisonnement qui, je pense, du coup, fait que la recherche, c'est quelque chose qui est assez méconnu du grand public, c'est-à-dire on ne sait pas trop qui sont les chercheurs, à quoi ils servent et ce qu'ils font. Du coup, quand il y a une réforme de la recherche, je ne suis pas sûr que ça soit très concret pour le grand public, mais c'est aussi, peut-être, en tout cas, peut-être qu'on peut l'expliquer comme ça aussi, parce que la recherche a du mal à s'ouvrir au grand public.
Il y a un journaliste qui nous a interviewé concernant notre grève, et il nous a dit qu'il était surpris parce qu'il croyait que la recherche était une tour d'ivoire. Et je trouve que cette parole, elle est vachement caractéristique. Elle illustre bien ce que les gens un peu du grand public peuvent penser de la recherche, c'est-à-dire un écrin protégé, alors qu'en fait, pas du tout. On voit que nous aussi, on est rongé par des logiques de flexibilisation, et on est les premiers à en pâtir. Et comme le dit Charles, il y a vraiment une coupure entre guillemets le grand public et entre guillemets la recherche, qui est vue comme une espèce de tour d'ivoire d'élite, qui est aussi de notre faute parce qu'on n'arrive pas forcément à dialoguer avec le grand public. Et d'un côté, ça peut se comprendre, on peut comprendre le grand public qui peut se dire pourquoi financer avec les deniers de l'État des recherches sur l'histoire de la philosophie qui n'intéressent personne, quoi. Il y a toujours, encore une fois, cette logique de l'intérêt qui gangrène l'université. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas un intérêt pratique, économique ou je ne sais quoi qu'il n'y a pas d'intérêt général.
Eh bien, j'arrive à ma dernière question. C'est le cas dans la recherche, dans plein d'autres choses aussi, mais les mobilisations, elles se font souvent contre des lois, contre des réformes, et pas souvent pour des avancées. Est-ce que vous, j'ai conscience que c'est difficile comme question, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'imaginer des façons d'améliorer l'université ?
Répondre de manière concrète, c'est assez difficile. Je pense que c'est surtout une logique de fonctionnement qu'il faut revoir. Je pense que le financement public, il est essentiel pour l'indépendance des chercheurs et de la recherche. Je pense que l'accessibilité aux études supérieures pour tous, c'est essentiel aussi, notamment dans un projet de société Et de réduction des inégalités, même si je ne suis pas persuadé que ça soit la volonté politique actuelle. Je pense qu'il y a aussi, des choses qu'on pourrait améliorer, nous, à notre échelle, qui est le fait d'essayer de créer peut-être davantage de liens avec d'autres laboratoires, d'autres départements, d'autres universités. C'est un petit peu difficile, parce que c'est vrai que chacun a un petit peu tendance à travailler dans son coin. C'est pas propre à la recherche, hein. C'est propre à beaucoup de secteurs. Mais je pense que avant tout, s'il y avait une réforme de l'université à faire, ça serait réformer toutes les réformes récentes, c'est-à-dire revenir à une recherche plus indépendante, financée par le pouvoir public. Je pense qu'à notre échelle, il y a aussi une difficulté qui est les différents statuts par lesquels on passe entre le statut d'étudiant en licence, ensuite d'étudiant en master, ensuite de doctorant, et puis ensuite de docteur, et peut-être à terme d'ingénieur de recherche ou d'enseignant-chercheur, maître de conférence, professeur, etc. Enfin, tous les différents statuts. Et je pense que particulièrement le statut, pour le connaître actuellement, de doctorant, il est un petit peu cloisonnant pour ça, parce qu'on nous pousse davantage à réfléchir à nous-mêmes, à nous recentrer sur nous-mêmes et sur notre recherche, et en nous disant, enfin moi c'est un discours que j'entends depuis ma première année de thèse, depuis je pense mon premier jour de thèse, c'est concentre-toi sur ce que tu fais et puis le reste tu verras ensuite. Sauf qu'en fait, le reste, faut aussi y penser aujourd'hui, quoi. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce mouvement. Et je pense que ce mouvement, maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul dessus, il n'aurait pas existé sans les mobilisations qu'on a eues contre la LPR, sans les mobilisations auxquelles on a participé contre la réforme des retraites, et puis sans finalement tout un passif militant aussi là-dessus.